Erreur. Ce fut l'excès même de la hideur de cette vieille qui m'attira chez elle. Quand, passant dans une ruelle transversale, je l'aperçus à sa fenêtre avec son masque violâtrement blafard, ses petits yeux où luisaient toutes les sales luxures et sa perruque brune frisottante, si manifestement postiche, il me monta au cerveau une bouffée de lubricité fangeuse, comme on voit souvent les rêves des très jeunes gens vicieux et de certains vieillards inquiets. De près, elle était absolument répugnante. La coupe rose de ses vieilles joues pendantes était encore accentuée par le poudroiement bleuté d'une veloutine d'herboriste. Des réparations successives de son énorme râtelier avaient mis des dents d'azur troubles à côté d'autres qui semblaient en vieil ivoire, et tout son être paraissait échappé de quelque cauchemar ou hantise pénible. Et pourtant, je n'eus pas une seconde d'écœurement. La nausée se transforma chez moi en une sorte de soûlerie bizarre qui m'intervertissait le goût, et très amoureusement, j'enveloppai la vieille de la caresse de mes longs regards. Ce n'était pas le besoin qui la poussait à faire son infâme métier, car tout chez elle était suffisant et presque confortable. Le lit était bon, les draps fins et blancs, et dans le coin de la chambre, une vieille armoire normande avait cet aspect cossu, cette apparence inexplicable d'être remplie, qui fait que les gens comme nous distinguent infailliblement, même fermés, les armoires pleines des vides. Tout d'un coup, comme certains champignons qui poussent spontanément dans des milieux putrides, l'idée du crime germa dans mon cerveau et y prit subitement une telle place que je n'essayais même pas de la combattre. Mon couteau était un de ceux qu'on appelle de non-tronc, à lame droite et pointue, au manche rond rétréci au bout, bien en main, et dont la large virole mobile empêche que la lame se referme. Très fort et très droit, je lui plantai le cou entre les deux épaules, à une place que je sais. Pendant que la vieille s'affaissait brusquement sur les genoux, dans la posture d'une désespérée qui implore Dieu, je lui maintenais le couteau dans la plaie et la large virole empêchait le sang de couler. Quand elle eut poussé son dernier « hou » rauque et sourd, quand l'hémorragie interne eut achevé de l'étouffer, je pris dans un tiroir de son armoire toutes les pièces d'or et d'argent et refermant la porte sur moi, je descendis tranquillement l'escalier. Toute cette scène de meurtre n'avait pas duré 10 minutes, et pas de bruit, pas de sang répandu. Pourtant, quand je me sentis dans la rue, j'eus un soupir de soulagement et un sourire de triomphe m'est vite évanoui. Deux sergents de ville marchaient sur moi de leurs pas lourdes, rondes, et leur tranquillité me semblait pleine de menaces. Avec l'effronterie des coupables, je plantai dans leurs yeux mon regard hardi, et tous les deux, comme mus par un mouvement machinal, portèrent leurs mains à la visière du képi. D'autres sergents de ville, rencontrés plus loin, me saluèrent de la même façon respectueuse, semblant répondre à ma secrète préoccupation. « Nous vous prenons si peu pour un assassin, cher monsieur, que nous n'hésitons pas à vous saluer. » Et jusque chez moi, je fus poursuivi par les marques de respect des gens de police, que je m'obstinais d'ailleurs à fixer insolemment. Rentré dans mon appartement, je me précipitai devant la glace, pressé de voir une tête d'assassin. Et je fus secoué par le plus joyeux éclat de rire de ma vie, et je m'expliquais mon prestige subi. La virole de mon couteau n'avait pas complètement bouché la plaie, et par la solution de continuité qui laisse passer la lame, avait giclé un filet de sang de la vieille, et ce filet était venu s'épanouir en rosette sur ma boutonnière. Tous ces imbéciles m'avaient pris pour un officier de la Légion d'honneur.